Il y a une chose qui me frappe, c'est le peu de femmes scientifiques dans l'histoire des sciences. Et je me demande pourquoi. Se sont-elles effacées face à la science? Ou les a-t-on effacées de l'histoire? Dans cet épisode, pour une fois, on ne va pas décortiquer un phénomène scientifique, mais se pencher sur un aspect plus sociétal de l'histoire des sciences. Pourquoi les scientifiques que l'on connaît sont principalement des hommes? Allez-y, essayez de penser comme ça à 5 femmes scientifiques. Marie Curie, oui. Qui d'autre? Même moi, j'ai de la peine à en trouver. Ok, Marie Curie.
Moi, quand j'étais petite, mon arrière-grand-père l'appelait la pute polonaise. Et je ne suis pas un animal préhistorique. Voilà comment Marie Curie, quand j'étais petite, était encore présentée la pute polonaise. Voilà.
Voilà. Voilà, voilà. Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme l'absence des femmes scientifiques en grande réponse historique et agnotologique. Vous allez comprendre dans un moment ce qu'est l'agnotologie. C'est Aude Fauvel qui va nous guider dans ce monde invisible. Elle est historienne à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Je précise que son arrière-grand-père était sans doute quelqu'un de très bien. Mais ses propos reflètent une époque. Vous l'aurez compris, la vie des femmes scientifiques n'a pas toujours été de tout repos dans l'histoire. Mais il y a eu forcément des femmes scientifiques depuis le début de l'humanité. On a une idée de qui serait la première ?
On a très très peu travaillé sur les femmes de science, donc moi je vais vous dire ce qu'on sait à peu près pour notre espace géographique qui est celui de l'Occident, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres ailleurs. Aujourd'hui est reconnue comme telle, c'est-à-dire citée dans un monde où on estime qu'il y a des scientifiques en tant que tels, que c'est un monde à part, qui a ses propres règles. Et là, on dit que tout est né autour de la Grèce, hein, de la Méditerranée, et on considère que ce serait une personne qu'on appelle Maria, parfois Marie, parfois Myriam, en tout cas Maria la Juive.
Ah, un deuxième nom. Note.
Toutes les scientifiques ne s'appellent pas Marie ou Maria.
Maria la Juive est une scientifique de l'Antiquité qui a vécu
au moins 3e, moins 2e siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie, et on dit qu'elle est reconnue parce qu'elle est citée par ses pairs PIRS scientifiques. On la prend au sérieux, elle est reprise comme une scientifique parmi d'autres pour ses découvertes. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en tout cas de ce qu'on sait en Occident, ce serait la première reconnue comme telle.
Et tellement reconnue que ses inventions nous sont encore utiles aujourd'hui. Le bain-marie, c'est à Marie la Juive qu'on le doit. Et non, ce n'est pas pour faire des œufs brouillés.
Alors c'est une alchimiste, on sait qu'elle a écrit un traité dont malheureusement on n'a pas de traces à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver ce texte. Elle s'est intéressée à des instruments, à des mesures, et donc le bain-marie, elle s'en sert, enfin de ce qu'on croit savoir, pour des mesures d'alchimie, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la chimie, et on dit que ce serait une technique qu'elle aurait inventée.
Une femme scientifique reconnue en antiquité par ses pairs, ça en jette. Et le premier homme scientifique de l'antiquité ?
Du côté des hommes, en Occident, encore une fois, pour ce que je sais, il n'y a pas une première personne qu'on crédite, contrairement du côté des femmes, c'est un ensemble de personnes qu'on appelle les philosophes pré-socratiques matérialistes. Alors matérialistes parce que justement, ils s'intéressent à la matière, à vraiment comprendre comment elle fonctionne de façon objective. C'est tout un ensemble de personnes. Alors les auditeurs connaissent, je pense, Thalès, un fameux théorème. C'est plus vers le moins 6e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce antique.
Je ne veux pas pinailler, mais les traces de la première femme scientifique apparaissent 300 ans après celles des premiers hommes scientifiques. Serait-ce parce que les historiens de l'époque avaient une mémoire sélective ?
En histoire, on sait vraiment pas grand-chose sur les femmes de science, on s'y est très peu intéressé. Par exemple, sur Maria la Juive, on ne sait juste que quelques traces par les travaux des autres, et en fait plutôt ses découvertes, quel était son parcours, comment elle est arrivée là. Franchement, mystère et boule de gomme à ce stade. Alors, à part ça, ça n'est pas exclusif aux femmes. Il y a pas mal de scientifiques de l'Antiquité. On sait qu'ils ont été là, mais on a des traces par les autres. Et puis, ça vaut pas que pour les scientifiques. Par exemple, Socrate n'a lui-même pas laissé de traité, mais pour autant, on peut reconstituer le parcours de Socrate. Mais ça, c'est quelque chose qui est particulièrement vrai pour les femmes, que ce soit à l'Antiquité ou dans des époques extrêmement plus récentes. Parce que les femmes ont beaucoup été, je dirais, supprimées de l'histoire, ou en tout cas invisibilisées. Et donc, souvent, il faut aller les chercher. Et ça, ça dépend des époques, ça dépend des lieux, donc il faut ruser. Et en plus, les historiens ont été peu à s'intéresser à ça jusqu'à une époque récente.
En fait, des femmes scientifiques, il y en a eu de tout temps. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas au Moyen-Âge qu'elles sont évincées du monde scientifique.
Alors c'est vrai que le Moyen-Âge, pendant une longue période, c'est vrai que la science fondamentale, expérimentale, n'est pas pendant plusieurs siècles au centre des préoccupations. Mais quand on a un renouveau aux alentours du 11e, 12e siècle, où on a les premières universités qui sont fondées, les femmes ne sont pas exclues de prime abord. Il y a des traces. Alors là encore, elles n'ont pas été beaucoup étudiées, mais on sait que notamment en Italie, il y a eu des femmes médecins, des femmes scientifiques, etc. Et on a aussi beaucoup tendance dans les pays qui insistent sur la séparation entre la religion et la science à oublier les monastères, où là, il y a eu aussi des femmes de science, notamment en botanique. Et puis du côté, on va dire, de la médecine, tout ce qu'on appellerait aujourd'hui biologie, où il y a eu des femmes qui ont fait énormément de choses, très connues, qui ont laissé des traités aussi en gynécologie, aussi de la chimie, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque.
Sauf que moi, je ne les connais pas.
Hildegard von Bingen, donc vous aurez compris qu'elle est dans l'espace germanique. C'est une de ces femmes dans les monastères qui s'intéresse fortement à la botanique au XIIe siècle. On a Trotta de Salerne qui a laissé des traités fondateurs pour la gynécologie sur les maladies des femmes. Alors elle est vraiment très très connue. Elle continue d'être citée pendant des siècles. C'est gênant quand on dit que les femmes peuvent pas faire de science de voir qu'il y a quand même quelqu'un qui trône en plein milieu de la science. Donc des historiens au XXe siècle ont dit mais c'est parce que Trotta de Salerne en fait c'est un homme qui se maquille, qui aurait fait semblant d'être une femme pour mieux passer au niveau de ses découvertes gynécologiques. C'est seulement au XXIe siècle que ça a été démontré une fois pour toutes, cette fois-ci par une femme historienne, que Trotta de Salerne est une femme, voilà, qui a bel et bien écrit, qui a bel et bien existé et qui a été médecin et reconnue comme telle.
Et c'est à partir de l'époque moderne qu'on sera violent avec les femmes scientifiques.
À l'époque moderne et à l'époque contemporaine, nous avons été infiniment plus barbares, par exemple au XXe siècle, pour évincer les femmes de l'histoire, au sens de dire qu'elles n'y sont pas. Et quand elles y sont, en fait, c'est des hommes qui se déguisent en femmes. Ça, c'est pas quelque chose du XIIe siècle.
Je ne m'explique pas pourquoi, à un certain moment, si les femmes étaient présentes dans la recherche et les universités, elles en sont évincées.
À l'époque moderne, donc du XVIe au XVIIIe siècle, les universités vont devenir de plus en plus fortes, de plus en plus diversifiées aussi, avec pas un petit truc, mais plusieurs grandes disciplines. Donc là, on a vraiment un monde scientifique qui devient rentable économiquement, qui est reconnu, voilà. Et donc, mathématiquement, je dirais presque logiquement, les femmes qui veulent faire de la science, elles veulent participer à ce mouvement. Et là, ça va un petit peu coincer pour des raisons de représentation sociale. On pense que les femmes doivent rester à la maison, elles sont pénibles, elles sont pas suffisamment costauds, par exemple, pour ouvrir les corps si elles doivent faire de la médecine. On en reste là jusqu'à vraiment l'ouverture majeure des universités au 19e, où là, ça devient un phénomène d'ampleur. C'est-à-dire qu'avec le fait qu'il y a moins d'illettrisme, les sociétés aussi ont plus d'argent. Et là, voilà, il y a plus de femmes qui arrivent et qui disent, on veut officiellement, parce qu'avant, elles étaient pas forcément officiellement évincées. Alors, il y en avait certaines qui arrivaient à avoir des diplômes, des doctorats. Mais là, elles arrivent et elles disent, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Et là, les universités vont être très claires dans l'ensemble, sauf deux exceptions, et dire, non, les femmes, elles ont pas le droit de s'inscrire. Alors, il va y avoir quelques tentatives, puis ensuite, c'est fermé. Les femmes sont exclues. Elles sont exclues dans les règlements des universités. Alors, elles vont essayer de continuer. Il va y avoir le féminisme de la première vague pour forcer les universités à ouvrir leurs portes. Elles vont continuer dans les cercles d'amateurs, etc. Mais la vraie grande fermeture, elle est au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Donc, c'est une époque très, très récente.
Elles ont forcément continuer leurs travaux.
On peut démontrer historiquement que quand les femmes étaient vraiment évincées de la vie scientifique, d'ailleurs que le fait de faire de la science était très mal vu, qu'en gros on vous voyait comme une sorcière, n'a pas pour autant amélioré la paix des ménages, puisque quand on a complètement évincé les femmes des sciences, on n'est jamais autant soupçonné de pactiser avec le diable, et on les a jamais autant brûlées pour sorcellerie. Je rappellerai que la Suisse ici a un record peu enviable d'avoir envoyé au bûcher un certain nombre de femmes dites sorcières.
Sorcières ou pute. Choisissez votre camp, mesdames. Bien entendu, vous pouvez être les deux.
Mais voilà, les femmes, si on prend la science au sens large, donc pas juste la science à l'université, ont de toute façon toujours fait de la science. Si on élargit le concept de science, faire de la cuisine, expérimenter, utiliser des herbes, voilà, même faire du maquillage, des choses prosaïques, c'est de la science. Et comme toute activité scientifique, même en dehors de l'université, dès que les femmes en savent un petit peu trop, de toute façon, elles sont suspectes.
Et donc, fini l'uni pour les filles. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être Marie Curie. Sauf que j'ai assez vite déchanté quand j'ai découvert sa vie.
Alors, on est dans cette époque hein, où on a fermé les universités aux femmes, mais on va finalement les rouvrir suite à un certain nombre de luttes, hein, de suffragettes, etc. Mais aussi parce que deux pays font exception et toutes les femmes vont s'y former, qui sont la Suisse et, en moindre proportion, la France. Et donc, en particulier, beaucoup de femmes venues de l'Est, et c'est le cas de Marie Curie qui vient de la Pologne, vont venir se former entre la Suisse et la France pour apprendre les sciences. Mais je dirais que ça reste correct tant que vous ne demandez pas à être complètement indépendante. Ce qui est le cas de Marie Curie au départ, puisque Marie Curie, elle travaille avec Pierre Curie, et finalement elle est son assistante, alors dans un modèle de la belle époque des sciences, où la femme, ok, éventuellement à certaines conditions, peut faire des sciences, du moment qu'elle est sous tutelle masculine.
C'est ainsi que Marie et Pierre Curie partage un prix Nobel de physique avec Henri Becquerel en 1903.
Sauf que Pierre décède, et que Marie Curie veut continuer à faire son travail, alors là déjà ça va coincer, alors elle est quand même soutenue hein, par des hommes qui vont dire non mais il faut continuer ce travail, et je dirais que tant qu'elle continue à être un petit peu dans le sillage de son mari, alors ça va à peu près. Le souci, c'est qu'elle s'avère extrêmement brillante, au point donc d'obtenir un prix Nobel, de faire des découvertes majeures.
Oui, un deuxième prix Nobel, toute seule cette fois, un prix Nobel en chimie.
Donc là, ça commence à être gênant parce que de toute façon, elle apporte de l'ombre sur ses collègues masculins. Et d'autre part, on va découvrir qu'elle a un amant. Alors ça, mon Dieu, mais c'est affreux. Et là, ça se retourne contre elle et on sait qu'elle s'est faite de cracher dessus, hein, littéralement. Donc ça a été assez compliqué pour elle. Même si, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a pu faire école, qui avait des disciples, qui a été quand même très fortement reconnu aussi. Donc il y a les deux aspects sur Marie Curie. Donc c'est à la fois, je dirais, un exemple qui donne envie quand même, parce que j'entends que vous dites « Ah, j'ai reculé en lisant sa biographie quand même, elle a été reconnue ». Quand on se dit « Qui est la femme scientifique ?», on se dit « Waouh, Marie Curie quand même ». Et puis elle a persévéré, c'est une héroïne des temps modernes. Donc moi je trouve qu'elle fait quand même envie. Et que de se dire que moi encore dans mon enfance, on pouvait pas dire « Moi j'ai appris Pierre et Marie Curie », ça ne passait que si on disait « Pierre et Marie Curie ». Et j'entendais encore la pute polonaise dans les discussions. Voilà.
Voilà. C'est compliqué d'obtenir un Nobel. Mais quand on est une femme, ou quand on est hors norme, visiblement, ça l'est encore plus.
Les scientifiques appellent ça l'agnotologie, c'est-à-dire que oui, on produit des sciences, on produit des connaissances, mais on produit aussi de l'ignorance, et on a tendance à invisibiliser ce qui ne rentre pas bien dans les logiques qu'on aimerait de la science. Si vous allez regarder n'importe quelle galerie de scientifiques, vous verrez que c'est tous des hommes blancs, distingués, en costume, avec des barbes. Dès qu'on sort un petit peu de cela, on a du mal à trouver des représentations, et c'est pas pour rien, c'est pas que les autres personnes d'autres provenances ou d'autres genres n'ont rien fait, tout simplement que c'est difficile de se faire reconnaître. Dans le monde des sciences, pour faire reconnaître, je dirais, de façon classique, il faut obtenir un poste universitaire. Je vous le dis, si tout simplement on n'a pas le droit d'obtenir un doctorat, c'est compliqué pour commencer, et il faut pouvoir être publié. Or, on le sait, et c'est toujours malheureusement le cas au XXIe siècle, que si si vous publiez sous le nom de Mathieu et non pas de Mathilda, eh ben vous avez plus de chances. Alors ça dépend des revues, ça dépend des disciplines, mais dans l'absolu, et c'est un biais, je dirais, intégré, c'est pas forcément conscient en plus, c'est ça le pire, mais avec un prénom masculin, vous avez plus de chances d'être publié qu'avec un prénom féminin, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, du coup. Ce qui veut dire que dans les époques passées, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour essayer quand même d'être publiées? Elles ont publié sous pseudonyme. Pseudonyme à tendance masculine pour pouvoir être publiée. Soit elles ont publié sous tutelle masculine, donc soit avec leur mari, soit sous le nom de leur directeur de thèse ou bien de la personne qui dirigeait le laboratoire, etc. Ce qui veut dire qu'elles apparaissent en deuxième auteur, voire des fois elles apparaissent pas, elles sont remerciées. Alors du coup, c'est compliqué pour la reconnaissance. Si vous n'existez pas à l'université, si vous n'existez pas dans les publications, tout simplement, on pourra, même si on le voudrait, on ne pourra pas savoir qui vous êtes. Donc il y a déjà ce problème-là. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de femmes qui font des sciences. Il y a toujours eu des femmes qui ont fait des sciences et beaucoup de femmes qui ont fait des sciences. C'est simplement qu'on ne les voit pas, qu'on ne les a pas vues, et même quand on les voyait, elles ne rentraient pas dans les cases permettant d'avoir des récompenses telles que les prix Nobel.
Rentrer dans les cases demande souvent de rentrer dans les institutions. En Suisse, les universités se sont ouvertes aux femmes à l'époque contemporaine.
Oui, si vous êtes une étrangère. Au 19e siècle, c'est vraiment là que les universités, telles qu'on les connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire, et même d'ailleurs dans les lieux hein, de l'heure actuelle, se formalisent. Hein, on est passé très largement dans des systèmes démocratiques. Les universités vont être payées aussi tout simplement par nos impôts. Voilà, il faut rappeler cet argument économique parce que ça joue dans le cas de la Suisse, l'économie. Pour la Suisse, on est dans la seconde moitié du 19e, dans les années 1860. Et la Suisse est un petit pays qui décide de fonder plusieurs universités. Donc, et dans les années 1860, quand les femmes justement se prennent aux portes des universités, dans tous les pays, on leur dit non. Et la Suisse se dit, mais pourquoi pas finalement? Déjà, on n'a pas assez d'étudiants, donc ça sera rentable. Mais aussi, à l'époque, il y a à la tête des universités suisses, du côté alémanique en particulier, des personnes qui sont assez révolutionnaires, qui sont souvent des Allemands qui ont été chassés de chez eux pour des raisons politiques, et des hommes même qui se disent féministes, qui vont se dire féministes, pas encore dans les années 1860. Ça commence par la médecine. Ce sont des Russes qui demandent, et la première à obtenir son doctorat, c'est en 1867, si je ne m'abuse, la faculté de médecine de Zurich, elle s'appelle Nadiejda Souslova. Ensuite, la France sera très rapidement la seconde, et puis c'est tout. Hein. Il faut savoir que la Suisse, en 1900, accueille dans toutes ses facultés de médecine plus de 50% de femmes. C'est un chiffre qui ne sera pas reconduit avant les années 60. Et en Suisse, en fac de médecine, il y a plus de femmes que dans l'intégralité de toutes les facultés de médecine d'Europe, que dans l'intégralité de toutes les écoles de médecine des États-Unis. On dit que la quasi-majorité de toutes les premières femmes médecins de l'époque contemporaine sont un jour passées par la Suisse, donc c'est pas un épiphénomène. Hein. Et c'est pas que la médecine. La Suisse ouvre toutes ses facultés par la suite aux femmes.
Et pourtant, le problème, c'est qu'en Suisse, pour rentrer à l'université, il faut une maturité, un certificat d'études qui permet l'entrée aux études supérieures. Sauf que les femmes helvètes ne pouvaient pas passer ce certificat en Suisse à l'époque.
Donc on va trouver des arrangements dans certains cas parce qu'on peut avoir l'équivalent de la maturité, etc. Et puis il va y avoir un certain nombre de femmes aussi qui vont quand même réussir à passer. En fait, c'est dans l'entre-deux-guerres que les femmes étrangères vont être de moins en moins nombreuses à pouvoir venir hein, dans les universités suisses. Déjà, il y a eu la révolution russe, il va y avoir la crise de 29, donc il y a moins de femmes qui viennent de l'étranger. Et c'est vraiment là que, inversement, le tournant va se faire, où on va accepter plus de femmes qui viennent de la Suisse, et puis aussi, du coup, accepter beaucoup plus facilement les femmes dans la maturité et avoir des équivalences beaucoup plus faciles qu'auparavant.
Alors qu'en Antiquité et au Moyen-Âge, les femmes touchaient à toutes les disciplines scientifiques, elles sont mieux perçues dans certaines disciplines à partir de l'époque contemporaine.
Toutes les femmes scientifiques n'ont pas forcément été féministes. Hein. Il y en a qui pensaient effectivement qu'il y avait des sciences plus féminines et des sciences plus masculines que d'autres, et que donc les femmes étaient plus légitimes dans certains types de sciences puisque ça correspondait mieux à leur esprit féminin. La douceur, le côté maternel, peut-être une meilleure empathie. Du coup, on considère que les femmes sont peut-être plus légitimes en médecine. Elles ont trouvé plus facilement leur place dans la pédiatrie, en gynécologie, puisqu'elles sont des femmes, donc elles comprennent leurs problèmes de femmes. En psychiatrie, parce que là aussi, on est sur l'aide à l'autre, l'empathie. Donc ça, ça dépend des pays, hein, des pays qui sont ouverts aux femmes psy en général, d'autres moins. Mais après, c'est segmenté, c'est-à-dire que toujours aujourd'hui, des femmes chirurgiens ou des femmes en urologie, il y en a très peu, par exemple. Puis cette partition un peu suivant des préjugés sociaux, hein, de féminité, toujours aujourd'hui, c'est-à-dire même quand les universités seraient très d'accord, ce qui est le cas au XXIe siècle, qu'il y ait plus de femmes dans beaucoup de disciplines où elles sont pas présentes, les jeunes femmes ont moins tendance à s'inscrire dans des sciences considérées masculines, c'est-à-dire plus expérimentales, les sciences dures, hein, voilà, tout ce qui est physique, chimie, et ont plus tendance à aller vers les sciences sociales, la médecine, tout ce qui est du côté du soin ou de la compréhension de l'autre, en continuant des préjugés qui sont plus nécessairement du tout portés par les universités, mais il y a comme ça une vie à très long terme de vieilles idées. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait, hein, et d'ailleurs en Suisse, beaucoup de programmes pour visibiliser toutes ces femmes qu'on connaît peu, sur lesquelles il y a encore peu de travaux, qui étaient en physique, en chimie, en astronomie. Il n'y a pas que Marie Curie, il y en a plein d'autres, même en informatique, des femmes ingénieures, etc. Et inversement, d'essayer, ça on le fait moins, mais quand même, de visibiliser des figures d'hommes, peut-être là où on les connaît moins, de manière à déconstruire ces espèces d'idées toutes faites qu'il y aurait des sciences qui seraient plus féminines, plus masculines, d'autant qu'en fait, ces idées sont assez récentes sur le point de vue de l'histoire. En tout cas, ce sont des idées reçues.
Lors de la leçon inaugurale de Marie Curie en 1906 à Paris, le journal Un quotidien français écrivait « Si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle ? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. »
Pourquoi je stresse ? Est-ce que je vis avec un homme de Néandertal ? Que fait cette fourmi dans ma cuisine ? Comment ma peau se répare ? Quelle est cette toxine qui a contaminé mon repas ? Quelle est cette voix dans ma tête ? Qui m'enverra la prochaine question de microscience ?
Si cet épisode vous inspire une vocation scientifique, écrivez-moi à microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel, ou envoyez-moi d'autres questions si vous souhaitez les transformer en grandes réponses scientifiques. Et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Play RTS. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique de taille moyenne. Et ils sont radio, très actifs, Grégoire Moll, coproducteur atomique, et Jérôme Nussbaum, sorcier des ondes musicales. Il y a quelque temps, une sœur de chœur polonaise m'a invitée à Varsovie. Nous nous sommes arrêtés devant la statue de Marie Sklodowska Curie. Elle est impressionnante. Une statue en bronze. Elle porte une cape balayée par le vent et dans la main droite, un cadre avec une représentation d'un atome de polonium qu'elle a découvert juste après avoir identifié le radium. Elle est immense et je me suis sentie minuscule face à elle.
C'est comme ça qu'on présente l'histoire des sciences aussi du côté des hommes, à présenter des grands découvreurs, tout seuls, toujours face au monde. Ils se battent contre la religion, ils se battent contre la maladie, c'est toujours des pionniers. Et on a un peu construit en miroir la même chose pour les femmes. Les grandes héroïnes qui doivent se battre encore plus que les hommes contre les préjugés. On a besoin de super-héroïnes des sciences. Mais d'un autre côté, le biais, c'est que on efface, on invisibilise, je dirais, les femmes et les hommes scientifiques, je dirais, un peu plus du temps commun, enfin voilà, qui font leur boulot un peu plus ordinaire. Et je pense aussi peut-être qu'un effet, éventuellement, chez certains, c'est de dire « j'arriverai jamais à être aussi fort que Marie Curie ». Donc je pense que c'est important, quand même, vraiment, de mettre en valeur les grandes pionnières, surtout qu'on les connaît vraiment pas toutes. Hein. Il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît toujours pas. Mais je pense aussi qu'il faut revisibiliser l'activité scientifique, je dirais plus ordinaire, montrer que la science est accessible à tout le monde et pas seulement à Marie Curie ou Léonard de Vinci.